programme, c'était Laurent qui devait faire la prédication. Et Laurent est en fait à Pontcharra, à l'église protestante évangélique de Pontcharra. Donc, il m'a demandé d'assurer la prédication. Je faisais déjà la présidence, donc voilà, excusez-moi. Du coup, ce matin, vous me voyez beaucoup. Mais du coup, voilà, Laurent vous salue et du coup, il s'excuse de ne pas pouvoir être là ce matin. Je vous invite à prier pour continuer ce temps. Seigneur, ta parole est là pour nous centrer sur toi, pour nous guider. Seigneur, cette parole, nous voulons du coup l'écouter, la méditer et qu'elle produise des fruits. Amen. Donc je vous propose 4 étapes. La première, c'est de lire un passage, une parabole de Jésus qui continue dans cette lignée des plantes, du jardin, à travers le cep et les sarments. Et ensuite, suite à ce passage-là, nous allons rentrer dans une histoire de Paul. Paul qui est en prison. Ensuite, nous avons une deuxième histoire à peu près similaire, toujours de Paul, qui se retrouve encore une fois en prison. Et je vous ferai aussi un petit témoignage aussi de ce que nous vivons actuellement ces quelques semaines, mais ça sera court, ce n'est pas le but de la prédication. Voici ce que dit le Christ. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, dit Jésus. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse le sarment, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Ce texte me perturbe. Vous savez, on a plein de textes dans la Bible, on a notre manière de concevoir les textes, et puis on lit un texte en disant on le connaît, on le comprend. Je l'ai relu cette semaine et il me perturbe ce texte. Il me perturbe parce que on parle bien d'un sarment qui est déjà sur le cep, qui est déjà accroché au cep. Et Jésus interpelle en disant, mais faites attention, je peux couper. Le Père peut couper le serment. Et on se dit, mais ce n'est pas possible. parce que c'est quand même un peu ça, c'est un peu ce que dit le texte. Donc c'est moi, ça me perturbe. Donc je vous dis un petit peu l'évolution de ce texte, ce qu'il a produit en moi. Tout sarment qui est en moi, vous voyez, qui est en moi, et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille. Et je me dis, mince, il faut que je vérifie si je porte du fruit. Parce que sinon, je suis sur le cèpe et si je ne porte pas du fruit, il va couper. Et du coup, je rentre dans une mauvaise démarche parce que je me dis, mais alors, il faut que je fasse des œuvres. Il faut que je fasse des choses pour être attaché au cèpe. Et puis, heureusement, le texte dit déjà, vous êtes pur. Ah, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Pur comme purifié, nettoyé, lavé par le Christ. Oui, je suis attaché au cèpe et c'est lui qui me purifie. Ça fait du bien de l'entendre. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Est-ce que j'ai la liberté de décider de continuer à demeurer en Christ? C'est fou quand même. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Finalement, on a toujours cette liberté en tant que chrétien. Le Christ y dit, vous êtes rattaché au cèpe et c'est vous qui décidez si vous continuez à être rattaché au cèpe. Je suis toujours libre, même quand j'ai décidé d'être avec le Christ. Et je dois veiller à voir que ce que je fais, les œuvres que je porte, sont bien le fruit du fait que je sois attaché au cèpe. Parce que Jésus, il dit... Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais sans Jésus, le monde y tourne. Non. Des gens ne reconnaissent pas le Christ, et pourtant ça tourne. Il y a des entreprises, il y a des actions sociales, il y a plein de choses. Il y a des associations, il y a de l'agriculture, le monde y tourne. Et un monde qui dit, nous n'appartenons pas à Christ. Et pourquoi Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire? Et sans le Christ, en fait, on ne peut rien faire de ce qui concerne le royaume des cieux, de ce qui concerne la volonté du Père. Et donc même nous qui sommes rattachés au cèpe, nous sommes interpellés sur le fait de faire des choses du Christ, de porter les fruits du Christ. Et que nous pourrions, si nous ne sommes pas vigilants, faire nos trucs à nous. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc bien sûr, je peux demander ce que je veux parce que je suis attaché au CEP et pas je demande ce que je veux parce que j'ai envie de faire ce que je veux, on est d'accord, c'est parce que je suis accroché au cep. Et je ne vous ai pas lu la fin, mais vous connaissez ce texte. Qu'est-ce qu'on fait du coup pour veiller sur le fait que ce sont bien les fruits du cep que nous faisons? Quel est le critère? Quelle est la veille? Et voici. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Alors parfois, on a le sentiment qu'il y a une épreuve, qu'il y a quelque chose qui est coupé. Et on se dit, mince, est-ce que je suis détaché du CEP ? Et rappelons-nous le début de ce passage qui nous dit « Tout sarment qui porte du fruit, l'Éternel le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. » Donc n'ayons pas peur non plus des épreuves, n'ayons pas peur des difficultés. Ça ne veut pas forcément dire qu'on se détache du CEP. Ça veut dire aussi que le Seigneur il nous affermit. Donc oui, nous devons veiller à être, à demeurer en Christ, à demeurer dans son amour et d'agir avec ça. Et on a tendance, on peut avoir tendance à faire nos propres œuvres alors qu'on se dit j'appartiens à Christ et on doit vraiment être vigilant à ça. Le Seigneur nous interpelle. Et pour illustrer ce passage, nous allons rencontrer Paul. Paul qui se retrouve face au peuple juif. Nous sommes dans la ville de Philippe, chapitre 16 de Actes. Voici Paul et Silas qui commencent leur voyage missionnaire pour annoncer l'évangile. Ça y est, Jésus est mort. Ça y est, Jésus est ressuscité. Ça y est, la grâce est là. La nouvelle alliance est là. Paul, qui lui était pharisien et avait une compréhension légaliste de la loi, a compris tout le sens de la loi, mais celle de l'amour et le sens de la grâce. Et ça accomplit toute la connaissance qu'il avait de la loi où il était légaliste et il se battait contre les nouveaux chrétiens. Et du coup, il a compris et tout s'est éclairé. Et à partir de là, son cadre est toujours là, mais il s'est ouvert et il est sur porter les fruits en étant rattaché au CEP et pas être accroché à une loi légaliste. Et le voilà se promener dans la ville de Philippe. Et il y a cette dame qui le suit depuis plusieurs jours, qui suit Paul et Silas. Et cette dame, elle est possédée par un démon. Très curieusement, quelqu'un possédé par un démon va dire la vérité sur Paul et Silas. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre et en nous criant. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. C'est curieux, une femme qui est possédée par un esprit de divination qui ne peut pas dire autre chose que la vérité. Elle a fait cela donc pendant plusieurs jours. Et Paul, finalement, plutôt que de le faire tout de suite, c'est l'agacement qui le pousse à se retourner et à dire à l'esprit qui est dans cette femme, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et l'esprit est sorti au moment même. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des juifs et ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre à nous qui sommes romains. » La foule s'est aussi soulevée contre eux. Les juges ont fait arracher leurs vêtements, ont ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant au geôlier de la prison
de les surveiller de près.
Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et les a emprisonnés avec leurs pieds dans des entraves, dans des pièces de bois. Voilà. Paul et Silas enfermés en prison, bouclés à l'intérieur. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient des louanges à Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer lui-même, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte : « Ne te fais pas de mal ! Nous sommes tous ici !» Alors le gardien a demandé de la lumière. Il est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les a fait sortir et dit : « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu : « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là, de la nuit, les gardiens les ont amenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Quand il a fait jour, les juges ont envoyé leurs agents dire au gardien de la prison : « Allez, relâche ces hommes. » Le gardien a apporté ces paroles à Paul : « Les juges ont fait dire de vous relâcher. Sortez donc maintenant et partez dans la paix. » Mais Paul a dit aux agents : « Après nous avoir fait battre en public et sans jugement alors que nous sommes Romains. »
Comment ?
Vous nous avez jetés en prison et maintenant vous nous ferez sortir en secret ? Que vos juges viennent eux-mêmes nous remettre en liberté. » Les agents ont rapporté ces paroles aux juges, qui ont été effrayés en apprenant que Paul et Silas étaient Romains. Ils sont venus leur présenter des excuses et les ont libérés en leur demandant de quitter la ville. Une fois sortis de prison, ils sont entrés chez Lydie et après avoir vu et encouragé les frères et sœurs, ils sont partis. Ce texte, il y a une semaine, je l'ai lu 16 fois, puisqu'on a fait des ateliers au festival de BD d'Angoulême pour des écoles. Et du coup, on a fait avec un collègue une animation biblique sur ce texte. Et je crois que c'est au bout de la 12e fois où dans mon cerveau, clac, il y a un truc que je n'avais pas vu avant. Alors, vous l'avez peut-être vu, mais moi, je ne l'avais pas vu. C'est que Paul et Silas n'avaient aucune inquiétude à avoir quand ils étaient en prison. Et pas du tout, parce qu'ils comptaient sur Dieu. Et ça, c'est incroyable. Aucune inquiétude, il suffisait juste qu'ils disent « Nous sommes Romains ». S'ils disent « Nous sommes Romains », tout de suite, ils sont sortis de prison. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils ne disent pas « Nous sommes Romains » ? Et ça, c'est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est que juste avant, quand ils étaient avec la foule, ils ont été battus. Ils auraient pu dire « Oh ! Qu'est-ce que vous faites ? Nous sommes Romains. Oh ! Ok, on arrête. » C'est dingue. La mission est plus importante que tout. Ils avaient un droit à faire valoir. et ils ne l'ont pas fait valoir. Vous ne nous fouettez pas, nous sommes Romains. Dès le départ, non, parce que, guidé par l'esprit, la mission est plus importante. Donc ils acceptent les fouets. Ils se retrouvent en prison. Leur objectif, c'est d'annoncer la parole. Et on le voit clairement. Quand le geôlier veut se tuer, alors qu'ils sont libres, ils ne partent pas. Leur objectif, c'est d'annoncer la parole. Donc ils vont tous voir le geôlier, mais ne te tue pas. Et ils veulent impacter l'ensemble des Romains. Donc quand les juges disent « partez », ils disent « ben non, au fait, on est Romains. » Ah bon ? Et ils font prendre conscience aux Romains qu'ils ont accepté d'être fouettés pour une seule raison. Montrer la force de Dieu, montrer que c'est lui qui est présent, montrer qu'ils sont accrochés au cep. Le Seigneur peut faire son travail beaucoup plus grand que ce qu'eux auraient fait. Et l'évangile a un impact chez les Romains à Philippe. Et ils peuvent partir. C'est fou! Nous avons des droits, parfois nous pouvons les utiliser, et parfois ce n'est pas par ce biais-là que nous allons impacter les personnes autour de nous. Je discutais à table entre midi et deux avec un partenaire quand j'étais au festival de BD d'Angoulême, puis on discutait ensemble, elle faisait partie du diocèse catholique. Et puis je lui raconte cette idée de Paul, et puis elle me dit « oui, mais c'est dangereux en fait cette histoire ». Et elle a raison, hein. Elle me dit « c'est dangereux parce qu'on va tous se positionner comme étant des martyrs en fait ». C'est-à-dire « tiens, est-ce que je dois me mettre en martyr et que je cherche à être martyr ?» Et je me dis « ah ouais, tiens, c'est vrai ». Et en fait, c'est pour ça qu'il y a la deuxième histoire, toujours de Paul, qui montre que ce n'est pas du tout en fait Paul qui a cet objectif de jouer au martyr, qu'il est simplement là pour suivre ce que le plan de Dieu. Parce que le Christ et l'Éternel n'a jamais le même protocole, ne fait jamais les choses de la même manière. Nous aimons les rituels. Nous aimons avoir toujours une même méthode. On dit voilà, c'est ça la notre manière de faire. Et on voudrait avoir peut-être les mêmes histoires avec les mêmes étapes, mais à chaque fois, c'est différent. Et nous devons apprendre à ce que c'est pas notre méthodologie qui fonctionne, c'est d'être attaché au CEP. Bien sûr, il faut de la méthodologie, mais ce n'est pas elle qui est première. Et voici, cette fois-ci, Paul qui se retrouve de mémoire à Jérusalem. Et qui est avec des Juifs. Nous allons le lire. Paul, attendez, excusez-moi. C'est 21, pardon. Chapitre 21, toujours dans Actes. Paul entra dans le temple pour annoncer À quelle date la période de purification prendrait fin et l'offrande serait présentée pour chacun des disciples. Vers la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie qui avaient vu Paul dans le temple soulevèrent toute la foule et s'emparèrent de lui. Sa réputation l'avait devancé. Il criait « Israélites, au secours ! Voici l'homme qui donne partout et à tout le monde un enseignement dirigé contre le peuple, contre la loi et contre cet endroit. Il a même introduit des non-juifs dans le temple, vous vous rendez compte ? Et il a profané ce saint lieu. En effet, ils avaient vu Trophime d'Éphèse avec Paul dans la ville et croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut dans l'agitation et le peuple accourut de tous côtés. Ils s'emparèrent de Paul et le traînèrent à l'extérieur du temple, dont on ferma aussitôt les portes. Ils cherchaient à le tuer quand on informa le commandant à la garnison romaine que tout Jérusalem était dans le désordre. Le commandant prit immédiatement des soldats et des officiers et courut vers la foule. Quand ils virent le commandement, la foule et les soldats, ils arrêtèrent de frapper Paul. Alors le commandant s'approcha, s'empara de lui et ordonna qu'on l'attache avec deux chaînes. Il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Cependant, dans la foule, les uns criaient une chose, les autres criaient une autre. Et comme il ne pouvait rien apprendre de certains à cause de ce tumulte, il ordonna de conduire Paul dans la forteresse. Lorsque celui-ci arriva sur les marches de l'escalier, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car l'ensemble du peuple suivait en criant « À mort !» Au moment où on allait le faire entrer dans la forteresse, Paul demanda au commandant « M'est-il permis de dire quelque chose ?» Le commandant répondit bah, « Tu sais le grec !» Parce que Paul, là, il parle en grec, ok ?« Tu sais le grec ?» Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené 4000 rebelles dans le désert ? Paul reprit, je suis juif. Je suis juif de Tarse, en Sicile, en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Je t'en prie, permets-moi de parler au peuple. Le commandant le lui permit et Paul, debout sur les marches, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit parce que Paul leur adressa la parole en langue grecque ? Non, hébraïque. Voilà un Paul qui se fait grec avec les Romains, voilà un Paul qui se fait hébraïque avec les Hébreux. Quand le commandant est là, Paul aurait tout à fait pu dire « Je suis romain. » Quand il a été attaqué par la foule juive, il aurait pu dire « Eh oh, je suis romain. La garnison va arriver. » Donc là, il se laisse faire. Et devant le commandant, il ne dit pas « Je suis romain. » Parce qu'il a un objectif, une mission, c'est de parler au peuple juif. Et là, il parle en hébreu. Il y a le commandant qui permet, du coup, qui est là, l'autorité, on va dire, l'autorité, oui, qui est là pour permettre à Paul de parler à la foule et la foule écoute. C'était l'objectif. Là, il accepte, en effet, les coups, mais il n'en est pas responsable. Ce sont les gens qui lui ont sauté dessus. Et il parle à son peuple. Et le peuple écoute. Le peuple écoute jusqu'à ce que le peuple entende que Paul n'est pas venu, que Dieu n'est pas venu que vers, pour sauver les Juifs, mais pour sauver les non-Juifs. Et ça, c'est insupportable. Il ne va quand même pas sauver les soldats romains. Il ne va quand même pas sauver les Égyptiens et les autres peuples. C'est un scandale. C'est à partir de là où il ne l'écoute plus. La foule l'avait écouté jusqu'à ces mots, mais ils se mirent alors à crier. « Fais disparaître de la terre un pareil homme. Il n'est pas digne de vivre. » Et ils poussaient tous des cris, jetaient leurs vêtements et lançaient de la poussière en l'air. Le commandant ordonna de faire entrer Paul dans la forteresse et de procéder à son interrogatoire par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Alors qu'il l'attachait avec des courroies, Paul dit à l'officier qui était présent, « Avez-vous le droit de fouetter un Romain ?» Et c'est ça qui est fort. C'est fort. Parce que ça y est, il a fait le discours. Et là, il dit, oh, ça va les coups, quoi. Stop. Et vous voyez qu'à un moment donné, Paul, il ne veut pas les coups. C'est pas quelqu'un qui veut le martyr. Stop, je suis romain. J'ai fait ma mission. Maintenant, j'ai mon droit de veto. Tu es romain. Et là, il y a tout ce qui va s'en suivre, où Paul veut partir à Rome pour voir l'empereur, il en appelle à l'empereur, il va y avoir ce voyage, mais c'est une autre histoire. quand même, c'est pas banal. La mission avant tout. Mais comme on est, il ne les veut pas les coups. Et quand il peut ne pas les avoir, il ne les a pas les coups. En France, je vais terminer avec ça. Nous avons beaucoup de droits. Beaucoup. On peut faire valoir nos droits tout le temps. Problème de voisinage. Problème au travail. Problème de famille. Et on peut faire valoir nos droits. Et parfois, il faut le faire. L'Éternel est celui qui nous aide à faire ce que nous devons faire, guidés par lui. Parce que nous sommes ses ambassadeurs. Depuis une dizaine d'années, je n'ai plus voulu faire valoir mes droits. J'en avais plein face à des difficultés et je n'ai pas sorti la carte. Seigneur, c'est toi. Dis-moi. Et à un moment donné, je la sors quand je sens que c'est le moment. Je dis, Seigneur, c'est toi qui décides. Aujourd'hui, avec l'association Famille la Protestante, c'est pas le sujet, hein, mais c'est juste pour vous dire que je sais que c'est le CEP. Je sais que ce que nous faisons, et encore hier, nous avons vécu une après-midi formidable. Nous étions 40 et pour entourer les familles ukrainiennes. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Il y a quelque chose qui est coordonné. Alors bien sûr, on bosse comme des fous pour ça, mais il y a quelque chose qui nous dépasse. Et j'ai peur qu'à un moment donné, par prétention humaine, je me dise, c'est nous, l'association, qui faisons tout ça. Vous voyez ? Et du coup, chaque jour, j'ai besoin de prier. Chaque jour, j'ai besoin de lire la Bible. Chaque jour, j'ai besoin qu'on partage en équipe, qu'on prie en équipe, qu'on soit soudés autour du Seigneur en équipe. Et derrière, on fait le boulot. Et il y en a du boulot. Mais c'est le CEP. C'est lui qui agit à travers les sarments. Et nous devons demeurer là-dedans. Demeurer là-dedans. Un jour, il dira, c'est bon, vous avez fait votre boulot. Je vous ai fait grandir. Nous avons avant-hier signé 2 maisons à Barbie, vous êtes au courant. 1 euro la location de chaque maison. Bien sûr, il y a les charges et il y a du coup un partenariat qui va se construire pour supporter les charges. Et nous allons pouvoir accueillir, nous avons 8 chambres d'accueil et du terrain. Mais si demain on nous dit, tiens, il y a encore 2 maisons sur tel territoire, et si vous êtes intéressé, on ne va pas forcément dire oui. On ne va pas forcément dire non. C'est Seigneur, c'est quoi que toi tu veux ? C'est quoi que toi tu veux ? Et si tu dis allez-y, on ira. Et ça veut dire qu'il y a des équipes qui vont venir parce que tu les as sensibilisées. Et il sait, comme tous les sarments sont accrochés au CEP et que tous les sarments demeurent dans leur amour, dans son amour, il sait comment mettre en lien les uns avec les autres. Et toi, comment tu fais ? Comment tu continues à faire ? Comment tu fais ? Nous devons veiller sur la mission de Dieu qu'il a mis en nous. Et ce n'est pas parce qu'on fait plein de choses qu'on est en train vraiment de faire la mission de Dieu, parce que nous sommes libres. Amen. Seigneur, viens nous affermir, viens émonder nos sarments, viens nous rassurer sur ta présence. Seigneur, tu nous as équipés, on est tous différents, chacun avec sa manière d'être. Et Seigneur, c'est toi qui nous met en relation, qui nous met en lien les uns avec les autres. C'est toi qui agis en nous, Seigneur. Merci pour ça, Seigneur. Nous voulons nous réjouir d'être ensemble, nous réjouir de travailler ensemble, nous réjouir de voir chez l'autre ce que tu es et pas de voir chez l'autre ce qui nous agace. Nous réjouir de savoir que nous allons pouvoir résoudre des conflits entre nous, Seigneur, et nous dire les choses parce qu'il y a de l'amour entre nous. Seigneur, combien de fois on n'ose pas dire les choses parce qu'on a peur d'être maladroit. Combien de fois on n'ose pas entendre ce que quelqu'un veut nous dire parce qu'on a peur d'être blessé. Mon Dieu, c'est toi qui es le cep. Merci pour ça. Amen.